CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Réponds à l'appel, même si tu es incompris ». Aujourd'hui, on va parler de ces appels qui brûlent dans nos cœurs, mais parfois on a peur de se lancer. Puis on aimerait avoir l'approbation du monde entier derrière nous pour nous pousser à rentrer dans cet appel. Mais parfois, on peut être incompris par certains. Mais si on a le go de Dieu, il faut foncer et on va en parler aujourd'hui. Je crois que ça va parler à certains d'entre vous. Vous savez que Dieu vous appelle à démarrer quelque chose, que Dieu vous appelle à porter un projet, que Dieu vous appelle à faire quelque chose en particulier. Et peut-être que parce que vous n'avez pas été soutenu, vous n'avez pas osé vous lancer, bah aujourd'hui, je crois que ce message va vous encourager, va vous faire du bien. Et on aura une rubrique « C'est mon histoire » en deuxième partie d'émission. C'est le prophète Francis Ngawala qui nous a partagé son magnifique témoignage. On avait déjà eu une rubrique de lui. Il nous parlait d'une résurrection qu'il avait vécue, qui était quand même déjà pas mal. Aujourd'hui, c'est plus personnel. C'est l'histoire de sa conversion et le début de son appel. C'est un témoignage qui devra avoir une suite. Vous verrez, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas pu faire toute l'histoire en un seul « C'est mon histoire ». Mais la prochaine fois qu'il viendra, il nous racontera la suite. En tout cas, un très beau témoignage que vous pourrez découvrir justement en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, Frank, on va t'écouter dans la pensée du jour.
Peut-être que vous vous êtes déjà senti incompris ou incomprise par rapport à ce que Dieu vous a dit clairement de faire. Et les gens autour de vous, en fait, oui, c'est ça, ils se posent la question, mais ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et je me rappelle une histoire dans la parole de Dieu de Paul qui était convaincu qu'il devait aller à Rome et les gens faisaient tout pour lui en empêcher. Ils disaient non, les gens pleuraient, ils savaient ce qui attendait Paul là-bas. Et les gens voulaient pas, mais Paul savait et avait une conviction qu'il devait se rendre là-bas. Et puis, en fait, dans cette émission, je veux vous encourager à, malgré que les hommes vont pas comprendre, foncer dans l'appel que Dieu a mis dans votre cœur et sur votre vie. Vous savez, parfois, Jésus va nous parler et on saisit pas tout du premier coup. Rappelez-vous de ce jeune homme riche que Jésus lui a dit « Vends tout et suis-moi ». Évidemment, Jésus, on sait qu'il voulait lui révéler l'état de son cœur. Il était trop attaché encore à ses biens matériels. Mais les gens autour de Jésus auraient pu certainement se dire, mais qu'est-ce qu'il lui demande? Les gens, on comprend pas tout ce que Dieu a derrière la tête, si on peut le dire comme ça. La pensée profonde, quand Dieu voit les choses tellement à l'avance, les gens ne voient pas les choses de la même façon. Les gens sont dans le terre à terre. Ils vont se dire, ben non, si tu fais ça, ta famille, si tu fais ça, les finances, si tu fais ça, ta sécurité, si tu fais ça, ben ta retraite, tout ce que tu vas avoir fait dans ta vie. Non, Dieu m'a parlé. Et je suis convaincu que Dieu me demande de faire cette chose, je dois y aller. Et quand je pense à Paul, je reviens sur lui et je réfléchis à comment il vivait sa vie encore là. Et on voit dans 2 Timothée, il écrit à Timothée, Paul dans sa cellule de prison, sur le bord, oui, d'arriver à la fin de sa vie. Et il dit dans 2 Timothée 2,15, c'est un verset que dès lors que j'ai commencé à prêcher, que j'ai commencé à accepter l'appel de Dieu sur ma vie personnellement, J'ai mémorisé ce verset-là et c'était un de mes versets favoris. 2 Timothée 2,15, la parole dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Je veux pas être devant Dieu et rougir disant, mais Seigneur, tu savais ma vie, comment c'était pas facile, ben, mes enfants étaient petits, ben, mon père et ma mère me disaient, mais pourquoi est-ce que tu irais là-bas dans ce pays? Pourquoi est-ce que tu ferais telle décision? Quand Dieu nous parle, on doit tellement avoir nos yeux fixés sur ce que Dieu nous a demandé de faire avant de vouloir raisonner et de donner raison aux gens autour de nous. Moi, personnellement, quand Dieu m'a dit « Frank, tu vas prêcher », j'ai pris la décision. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé, j'avais dit « Moi, je vais être celui qui prêche devant dans une église ». Et la première réaction avait été « Mais comment tu vas faire? Comment c'est possible? » Les gens raisonnent naturellement. Mais toi, au-dedans de toi, il y a quelque chose de surnaturel. Il y a une semence spirituelle qui a été semée de la part du Saint-Esprit. Il y a un appel qui est là à l'intérieur de toi et ça commence à vouloir germer, à pousser. Et tu sens cette chose qui est là, l'appel tire sur son... Mais les gens, non, mais comment est-ce... Arrête de raisonner. Je veux t'encourager. Aie pas les regards fixés sur ce que les hommes vont penser, mais crains Dieu. Cherche à lui obéir premièrement, à lui plutôt qu'aux hommes. Même si les hommes ne comprennent pas, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu dire aux héros de la foi du passé, mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Est-ce que tu es fou? Pourquoi est-ce que tu fais telle décision? Mais ces personnes étaient convaincues qu'ils avaient entendu de la part de Dieu une directive pour leur vie et ils ont foncé. Aujourd'hui, ce qui est là à l'intérieur de toi, je veux t'encourager, même si les gens ne comprennent pas, c'est pas d'être rebelle, c'est pas de se ficher des conseils. Mais je te dis qu'il y a certainement des choses que tu vas avoir sur le cœur de faire que les personnes vont pas comprendre, mais Dieu voit le dessin au complet. Dieu voit toutes les choses qui sont là et ce qu'il veut faire au travers de toi. Fonce dans cette direction, étant entouré de personnes sages qui vont t'encourager, mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, agis sur cette parole, tout comme Paul le fait, tout comme Timothée a dû le faire, tout comme tous les autres ont dû avancer par la foi, agissant et croyant que Dieu était avec eux et ils ont vu des choses extraordinaires. Ne te prive pas d'une vie surnaturelle, d'une vie glorieuse, d'une vie où tu entres complètement dans ta destinée parce que les hommes auront dit. Ça serait honteux et sois pas cette personne qui va devoir rougir lorsque tu vas te tenir devant le Seigneur parce que tous rendront des comptes pour tout ce qu'ils auront fait, bien ou mal. Sois-en certain. Aujourd'hui, prends cette décision. Seigneur, je vais t'obéir.
Amen, Frank, merci. Amen. Hey, c'est toute une affaire de foi, ce ouais. dont on parle. C'est vraiment une affaire de foi. Avoir la certitude qu'on a réellement entendu la voix de Dieu, avoir la certitude que Dieu nous appelle vraiment à faire ces choses. Et quand je t'écoutais, je pensais à Reinhard Bonnke, ouais. qui a déménagé au ciel, comme on aime le dire. Mais lui, personne ne soutenait son appel. Il avait cet appel pour l'Afrique qui brûlait dans son cœur depuis qu'il était jeune garçon. Personne ne le comprenait. Sa mère, son père, ses frères, les gens, tout le monde essayait de le freiner dans son appel. Il a eu toutes les barrières possibles et inimaginables. Dans son cœur, ça brûlait. Dans son cœur, c'était impossible, indélogeable. Et quand on voit les fruits qui sont sortis, s'il avait écouté ces gens, s'il avait écouté son propre père qui était pasteur, pourtant sa mère qui était une femme de Dieu aussi, s'il les avait écoutés, il serait passé à côté de tout ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à son ministère, une vie entière, le salut des âmes. Il ne s'agit pas juste de notre propre vie, il s'agit aussi des âmes qui vont être sauvées au travers de ce que Dieu nous demande de faire. Dieu ne nous demande pas de faire des choses, ne met pas un appel sur notre vie juste pour faire beau, c'est parce qu'il a un plan pour sauver des âmes derrière et c'est ça qui compte. Et si on garde ça en face de nos yeux, bien sûr, il y a le timing de Dieu, bien sûr, il y a la sagesse, mais c'est une affaire de foi, de croire que oui, Dieu nous a vraiment appelés.
Et c'est là que c'est important d'être entouré de gens qui croient en nous.
Oui.
Là, il faut faire la différence parce qu'il y a sur cette terre des hommes et des femmes de Dieu qui vont vouloir, par orgueil, par pas vouloir se faire dépasser par les petits jeunes, entre guillemets, qui vont vouloir dire « Non, 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 toi, ton endroit, c'est là, mais il y a quelque chose qui brûle en toi et tu le sais. » La différence, faut nuancer premièrement, mais d'être entouré de gens qui veulent voir l'avancement du royaume de Dieu. Des pères, des mères dans la foi, des aînés, des anciens, des hommes spirituels qui vont pouvoir nous diriger comme il faut. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas de la rébellion. Et on parle pas de faire les choses sans en parler à d'autres avant. On a des pasteurs d'église locale, on a des personnes dans nos vies que Dieu a attitrées. On en parle, mais oui, comme te dit Evelyne, la sagesse pour le timing, pour peut-être les façons de faire que eux, l'expérience qu'ils ont, que nous, on n'a pas. Ouais. C'est toutes des choses qui sont importantes. Mais il faut pas se priver d'entrer là-dedans parce que les hommes auront dit. Ouais. Ça, c'est terrible.
Amen.
Yeah, le diable va vraiment utiliser l'intimidation. Pour nous intimider, il va passer par les hommes. Je regarde ma vie. Quand enseignemoi.com a débuté, au début, je me souviens, j'en ai parlé à mes parents. Voilà, j'arrête mes études pour démarrer un site internet, enseignement.com. Ma mère a réagi, elle a fait certaines choses. Et mon père, au téléphone, je me souviendrai toujours ce jour, Frank. Il était là et mon papa, quoi. Tu sais, je suis loin d'eux. Ils étaient à l'île de la Réunion. Moi, j'étais en Bretagne, tout seul. Et je lui dis ce que je vais faire. Voilà, je vais servir le Seigneur. J'arrête les études. Dieu m'a parlé. Il a changé aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Mais il m'a dit, mon fils... Si tu fais ça, tu ne remets plus jamais les pieds à la maison. Et là, je me souviens, j'ai raccroché le téléphone et j'ai fondu en larmes, fondu en larmes. Et dans ces moments-là, quand tu entends la voix des hommes, des rapports négatifs comme ça, t'es obligé d'aller dans le lieu secret pour entendre la voix supérieure, celle de Dieu.
Amen.
Et je me souviens, moi, cette voix qui m'a toujours gardée, qui m'a toujours permis de, même si j'ai entendu plein de choses, me dire, oh, il faut que j'entende la voix supérieure. Et c'est cette parole de Josué 1.5. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi, sera avec toi. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Il a dit à Moïse, hey, t'as peut-être pas tout en main, tu sais peut-être pas parler, mais je serai avec toi. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Et ça, ça a toujours été pour moi la parole supérieure.
Amen.
À celle des hommes. Si Dieu est avec moi, qui pourra être contre moi? Alors, je veux vous encourager, hein, si vous êtes sûr que Dieu vous a parlé, s'il y a un feu qui brûle dans votre cœur, n'écoutez pas les voix des hommes, mais écoutez la voix supérieure, celle de Dieu qui vous dit « Je serai avec vous ».
Oui, amen, amen. Notre verset du jour aujourd'hui va vous faire du bien, je le pense. Galates 1 au verset 15. « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. » Si on comprend qu'on a une destinée que Dieu a placée sur notre vie, qu'il a formé des projets pour notre vie, qu'il connaît d'avance, avant même qu'on soit né, il connaissait ses projets, ses plans et cet appel qu'il avait mis sur notre vie, on va comprendre que on a, nous, par notre désobéissance, le pouvoir d'anéantir cette destinée, d'anéantir ces projets que Dieu a préparés. Quelle catastrophe! Sérieux, quelle catastrophe d'anéantir ces projets! Et vraiment, je pense qu'on a besoin de marcher plus par la vue, mais de marcher beaucoup plus par la foi et de croire que ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a mis dans notre cœur, même si ça paraît fou, même si ça, on a l'impression qu'on n'a pas les finances, même si on a l'impression que ça va tout nous coûter et puis que ça paraît complètement insensé, si Dieu l'a mis dans notre cœur, il a déjà prévu tout ce qu'il fallait pour rentrer dans cette destinée, dans cet appel. Ça ne veut pas dire que ça va être un long fleuve tranquille. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, ça ne va pas être tout rose, mais Dieu va être avec nous et il a déjà prévu toutes les solutions pour nous sortir des difficultés qu'on rencontrera parce qu'on est sur ce chemin qu'il avait tracé avant même notre naissance. Et ça, c'est fort quand on le réalise.
Absolument. Je vais mettre l'accent vraiment sur, en terminant cette discussion, 2 Corinthiens 5:10. Je n'ai parlé dans la pensée du jour, mais je veux le redire. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je veux que la crainte de Dieu soit là présent dans chacune de nos vies. Vous tous qui regardez à la maison, c'est des choses sérieuses. On va se retrouver devant Dieu. Que tu vives à 50 ans, 70, 90 ans, on va être devant lui. Il y aura des comptes à rendre pour le bien ou le mal qu'on aura fait et selon l'obéissance qu'on aura fait par rapport à ce qu'il avait décrit pour nous.
Amen. Et on va découvrir maintenant le témoignage du prophète Francis Ngawala, pardon. Et vous allez voir que lui, justement, pour rentrer dans son appel, il a dû résister aussi au courant contraire. On le découvre tout de suite. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et privilège de recevoir le prophète Francis Ngawala. Bonjour.
Bonjour Francis Ngawala.
Ngawala, oh pardon, Ngawala, je vais y arriver. Vous êtes le pasteur fondateur de l'église Parole de foi au Congo, à Kinshasa. Exactement, et du ministère La Voix de la Puissance Divine, c'est ça. Et ça fait des années maintenant que vous servez le Seigneur, non seulement au Congo, mais aussi partout sur la terre. Vous êtes un grand voyageur.
Il paraît.
Il paraît. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir pour que vous veniez raconter le témoignage de votre conversion, de votre appel aussi à servir Dieu. Donc, vous étiez au Congo à l'époque et dans une famille catholique, mais vous aviez eu une enfance, une adolescence un petit peu chaotique, on va dire.
Pas un petit peu, très chaotique.
Très chaotique.
Parce que déjà, l'histoire avant la conversion était très particulière. J'étais un enfant qui a grandi avec beaucoup de blessures intérieures. À l'école, j'étais plutôt assez bouillant, bagarreur, injurieux, dragueur, comme on le dit. Parce qu'en fait, j'essayais de combler le vide, un vide en moi. Et à quoi était dû ce vide? C'est que ma mère était partie lorsque j'avais moins de 2 ans. Alors, elle était partie, elle est allée vivre en Europe. Et sans le savoir, elle me manquait. Et dans les familles africaines, lorsque vous venez comme ça, vous incrustez dans une famille qui existe déjà, il y a papa, maman et les enfants. Et moi, j'étais le seul enfant qui était né hors mariage, donc ça n'avait pas été facile. Et les parents étaient des bons catholiques romains qui nous amenaient à l'église. Et bizarrement, personnellement, moi, pour aller à l'église, il fallait me corrompre. Parce que, tenez-vous bien, c'est qu'à partir de 89, j'avais vécu une histoire qui avait fait que je ne croyais plus en Dieu.
Aïe.
Ouais, je ne croyais plus en Dieu. Pourquoi je ne croyais plus en Dieu? Vous savez, à l'époque, il y avait les mouvements dits charismatiques à Kinshasa. Mm-hmm. Donc, les gens commençaient à apprendre les dons de prophétie et tout ça. Mais malheureusement, avec les abus, donc mon père étant très bien placé dans une entreprise, c'était un grand cadre. Et il y avait un groupe de prière dans l'entreprise.
Mm-hmm.
Et ils sont venus prier à la maison. Et l'une des femmes faisait tout pour que j'affirme avoir été envoûtée par ma grand-mère.
Mmh.
Et bah, écoutez, j'avais faim. Au bout de 3 heures de prière, je leur ai raconté le début du film Le MacGyver.
Oh.
En feignant que c'est ce que je voyais quand je dormais. Mais en fait, après, ça m'a brisé.
Mmh.
Parce que je me suis tiré d'une situation. Mais après, je me suis dit, bon, si vraiment Dieu existe... Je ne crois pas qu'il aurait permis qu'on me traite comme ça.
Donc Dieu n'existait pas.
Dieu finalement. N'existait pas.
Mmh.
Alors en 90, nous nous sommes retrouvés en été en Belgique, à Bruxelles. Et un jour, alors que je retournais dans l'appartement de mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je verrai une dame au couloir qui va me pousser dans les toilettes du couloir. Et puis moi, je dirais, mais madame, ça va? Elle me regarde, elle dit, est-ce que vous êtes Francis? Je dis, oui, vous êtes le fils de Monsieur Ngawala. Je dis, oui, bien sûr. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Elle me dit, vous savez, il y a quelques années, on est venu prier chez vous, vous vous rappelez? J'ai dit, je me rappelle de l'histoire et j'ai toujours dit, la femme qui avait prophétisé pour moi, il fallait que je lui casse la gueule un jour.
Oh.
Vous savez, elle me regarde, elle dit, c'est moi. Alors, toute cette fougue que j'avais, cette fureur également, s'est tout de suite arrêtée et j'ai eu les larmes aux yeux.
Mmh.
Elle m'a dit, en fait, je ne sers plus Dieu depuis ton histoire. Parce que je m'étais rendu compte que nous avions été injustes à ton égard.
Wow.
Mais j'avais prié Dieu, et c'était ma dernière prière, qu'il m'accorde la possibilité de te rencontrer avant de mourir. Et quand j'ai appris que vous étiez là, j'ai tout fait pour te voir. Et j'ai regardé cette femme, j'ai dit, madame, vous aviez gâché ma vie. Elle me dit comment? J'ai dit, vous avez gâché ma vie. Parce qu'en fait, j'étais en ce moment-là convaincu que j'avais plus rien de bon à tirer de ma vie, que j'étais condamné à être un voyou, j'étais condamné à mourir de boisson ou même de sida, puisque c'était en vogue à l'époque.
Mmh.
Et ça a déjà été un pas. Alors j'ai dit à cette dame, je ne sais pas ce que c'est que pardonner, mais je décide de te pardonner.
Wow. C'est un grand pas, ça.
Un très grand pas, mais j'avais beaucoup pleuré, en fait.
Mmh.
Mais cette haine de Dieu n'avait pas cessé dans mon cœur. Au point que même en plein hiver, j'étais capable de me retrouver à l'extérieur juste parce qu'on avait mis de la musique chrétienne. En fait, je ne supportais pas le nom de Jésus.
Mm-hmm.
Je ne supportais pas Dieu. Et pour la petite histoire, on m'avait chassé de l'église catholique en plein messe de Pâques. Pourquoi? Parce que on avait projeté le film de la vie de Jésus. Et là où la personne a giflé Jésus, pense Pilate, et moi je me suis dit, non, mais ce gars, comment on peut le gifler et puis il ne réagit pas? Ah non, mais ça c'est un poltron.
Mmh.
C'est comme ça que je réfléchissais.
Il y avait vraiment un rejet de tout ce qui venait
un
de
rejet.
Dieu.
Mmh. Alors en 92, nous sommes revenus au pays après un grand voyage en Afrique du Sud également. Alors là, il y avait une fille dans le quartier qui priait. Et nous nous étions lancé le défi entre les garçons. On verra qui l'apprendra.
Mm.
Mais pour l'apprendre, il fallait aller à l'église. Et comme nous n'habitions pas loin de l'église de la Borne, dirigée par feu notre papa, le pasteur Jacques-André Vernon.
Tout à fait.
Oui, pour qui j'ai énormément de respect.
Mm-hmm.
Alors, en venant à l'église, vous savez, tout ce qu'on prêchait, ça entrait à gauche, ça sortait à droite. D'abord, je ne comprenais rien.
Mm-hmm.
Et même quand on prêchait, je ne comprenais rien.
C'est la première fois dans une église protestante à ce moment-là?
Non, disons que j'avais déjà été dans une église protestante pour accompagner une grande cousine à nous dans les années 85, 86. Mais après, bon, tout ce qui était Dieu, chrétien, je ne me disais rien. Et au fur et à mesure qu'on prêchait, j'ai commencé à me dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je ne donnerais pas ma vie à ce Jésus? Et on avait un grand cousin avec qui on partageait la chambre à la maison. Et il m'a dit, petit, tu sais, toi, sans Dieu, tu seras un farceur. J'ai dit, non, je ne serai pas un farceur, je suis un farceur. Et je lui disais ça avec beaucoup de fierté.
Mmh.
J'ai dit, tu sais, moi, je suis un voyou né. Personne ne peut m'arrêter, moi, je ne peux pas me convertir. Et au fur et à mesure que je partais à l'église tous les dimanches pour suivre la fille, eh ben, l'évangile a commencé à me toucher.
Wow.
Un bon dimanche, on dit qui veut recevoir Jésus. Bon, sans comprendre c'était quoi recevoir Jésus, je me suis quand même avancé. On a prié, j'ai dit amen. Je suis retourné à ma place. Alors là, nous sommes fin août, début septembre 92. Mm-hmm. Une cellule de la bande qu'on appelait Pèlerin va organiser une croisade d'évangélisation, une campagne. Et je prends une vieille Bible à la maison et je dis, ben, en bon frère, je vais aussi aller à la campagne. Mais en fait, au fond, je ne croyais pas trop à ces choses. Oh, Dieu est magnifique. Dieu existe.
Amen.
Ce jour-là, le prédicateur, qui est du reste pasteur de la borne à Lubumbashi, le pasteur Guy Amani, mm-hmm. a lancé l'appel pour ceux qui voulaient recevoir Jésus. Et ben, je me suis approché avec ma Bible. Et puis, il dit comme ça, vous voulez recevoir Jésus, levez vos mains. Donc, j'ai levé les mains, j'avais la Bible sur une des mains. Et puis, j'ai fermé les yeux. Il nous a fait suivre et répéter la prière du salut. Mais à un moment, j'ai senti qu'il y avait de l'air qui passait en dessous de mes pieds. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'était magnifique. Quand j'ouvre mes yeux, en fait, j'étais pratiquement comme dans le vide.
Wow.
J'ai crié, ah, j'ai hurlé, je suis tombé. J'ai ramassé ma Bible en disant ceci. Eh, Dieu existe, hein? Tout de suite, sans attendre la fin, je suis parti à la maison. Je suis retourné, je suis entré dans ma chambre. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, si tu existes, pourquoi m'as-tu laissé vivre ce calvaire?
Mmh.
Et le Seigneur, ce jour-là, m'a dit, Francis, je suis ton père, je suis ta mère.
Wow.
Oui, et ceux de l'église Parole de foi à Kinshasa le savent, j'ai l'habitude de dire Dieu mon père, Dieu ma mère.
Mmh.
Et ça a tout son sens. Ça veut dire toute cette attention et ce grand amour que je n'avais pas reçu de mes parents. Et je ne leur en veux même pas.
Mmh.
Mais en fait, je l'ai reçu de Dieu.
De Dieu, amen.
Ce jour-là, je me suis enfermé dans ma chambre. Je suivais un album de Claude et Julia.
Oui, Payan.
Payan, mmh. voilà. Et ça m'avait tellement touché. Ça m'avait tellement touché. En fait, je crois que c'est ce jour-là que je me suis vraiment converti.
Wow.
J'ai pleuré, j'ai décidé de tout arrêter.
Et mais votre vie a changé après ça?
Changé, mais après, il y avait le vieil homme.
Mmh.
Et mon vieil homme m'avait retenu sur deux choses. La première des choses, c'était la musique païenne. C'est qu'en fait, la musique me permettait de me recroqueviller sur moi-même, de me renfermer. J'ai trouvé une certaine énergie. Quand j'écoutais la musique mondaine, les slow, zouk à l'époque, je me sentais bien. Comment abandonner ça? Et la deuxième des choses, c'était la convoitise des femmes. Moi, j'aimais bien regarder les femmes.
Mmh.
Donc, même quand j'ai décidé de me convertir, quand une femme passait, je la regardais avec passion.
Mmh. Et qu'est-ce qui a changé, ces choses-là?
Qu'est-ce qui a changé, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que l'enfer existe. Et j'ai réalisé que Dieu était plus grand que cela. Et moi, je partais toujours dans des changements qui étaient très extrémistes.
Mmh.
Quand j'ai dit, bon, moi, les histoires de convoitise, je ne veux plus, j'avais atteint un niveau où, vous savez, dans ma culture congolaise, zaïroise à l'époque,
mm-hmm.
pour les gens d'une certaine famille, de certains milieux, quand on rencontre les femmes, c'était « Ah bonjour, bonjour, on se fait des bises ». Eh ben moi, j'ai dit « Non, pas de bises, je ne veux pas, ça conduit au péché ». En fait, je suis devenu catégorique
mm-hmm.
et on m'avait surnommé TTS, donc trop spirituel.
TTS, ok.
TTS, trop spirituel.
Mm-hmm.
Alors, quand je me suis converti, j'ai tout arrêté. À l'époque, mon meilleur ami s'appelait Christian Moukas Modilo. Son père était président des musulmans à Kinshasa.
Oh.
Et je lui ai dit, mon cher ami, j'ai reçu Jésus. Je ne vais plus aller dans les boîtes. Je n'irai plus dans les bars. Il m'a dit, non, mais Francis, et lui m'appelait Chesco. Il dit, mais Chesco, ça c'est des aventures. Est-ce que tu as vu les jolies filles qu'il y a à Kinshasa? En plus, mon père vient d'être nommé ministre. Donc, il y a des véhicules, il y a des gardes du corps, on va frimer. J'ai dit, non, mon cher. Je ne ferai plus marche arrière. Alors ce jour-là, il m'a regardé, il me dit, Francis, tu sais, comment toi, un homme aussi bien, les filles t'aiment, et puis tu vas suivre un bâtard. J'ai dit, c'est qui le bâtard? Il me dit, c'est Jésus. Je lui ai dit, alors si Jésus est un bâtard, j'opte pour ce bâtard. Et vous savez que 3 mois après, ou 4 mois après, j'apprendrai qu'il est mort. Mmh. Ouais. Alors cette histoire m'avait horrifié. J'ai vu comment les musulmans traitaient les cadavres humains. Je ne porte pas un jugement sur eux. Ça m'avait sidéré.
Mm-hmm.
Je me suis dit, oh, mon ami qui était si fier, si propre, on va l'enterrer comme ça, sur une natte. Ben, je me passe de tous les commentaires.
Mm-hmm.
En fait, cette histoire m'a encore ancré en mm-hmm. Christ.
Une crainte de Dieu est,
voilà.
est
et
venue.
Là, j'ai décidé, moi aussi, de commencer à évangéliser.
Mm-hmm.
Et à l'époque, j'étudiais, j'allais à l'école. Et j'évangélisais sérieusement. Mais comment évangéliser sans connaître la Bible? Eh ben, je me suis lancé dans la lecture de la Bible. Et après ma conversion, j'ai lu toute la Bible pour la première fois en 30 jours.
Wow.
Sans rien comprendre. Mm. Et les dimanches, lorsque j'allais à l'église, j'entendais, j'écoutais les prédications de mon pasteur. Et il y avait notre pasteur, le pasteur Vernot, il y avait le pasteur Veille, le pasteur Roland Dallo, mon aîné. Et ben, qu'est-ce qui se passait? Ben, les lundis, à l'école, moi, je répercutais les enseignements que j'avais écoutés, même sans les comprendre. Et je me suis rendu compte que les gens commençaient aussi à donner leur vie à Christ.
Mm-hmm.
Et là, nous étions déjà en 93.
Wow, wow.
Et en 94, entre amis, nous nous sommes dit, on va organiser une campagne d'évangélisation. Alors, c'était dans un institut supérieur qu'on appelait IPN à l'époque, devenu aujourd'hui UPN, université.
Mm-hmm.
Et on va se dire, bon, qui sera le prédicateur? Et tous les amis me disent, non, mon cher, toi, tu es courageux, tu dois être prédicateur. Dis, moi, j'ai prêché où dans la vie? Moi, je ne peux pas prêcher. Non, attendez, ça ne peut pas marcher. Bref, n'ayant pas le choix, j'ai accepté. Mmh. Mais à l'époque, je ne parlais pas en langue. Ah non.
Pas de baptême du Saint-Esprit.
Pas de baptême du Saint-Esprit, mais j'étais capable de prier jusqu'à 15 heures d'affilée, en français, sans chanter. Ah oui. Donc, j'étais capable de m'enfermer, de prier sur tous les week-ends.
Mmh.
Donc, je pouvais commencer vendredi à 0h, m'arrêter dimanche à 15h, 16h. Mmh. Je prends ma Bible, je vais à la jeunesse sur la borne. Je ne vivais plus que pour Dieu.
Oui, vraiment. Malheureusement, le temps nous manque d'aller plus loin dans l'histoire. Mais prophète Francis, vous reviendrez nous raconter cet appel que Dieu a mis sur votre vie. Parce que oui, il y a eu un appel de pasteur, mais il y a surtout cet appel de prophète. Ouais. Et on aura l'occasion de pouvoir en parler dans une autre rubrique, c'est mon histoire.
Ce sera avec plaisir.
Mais nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette merveilleuse conversion. Bien. Merci beaucoup d'être venu, prophète Francis.
Merci à vous, ma sœur.
Avec joie.
Merci de m'avoir reçu.
Je prie vraiment que ce témoignage, que cette émission vous a fait du bien à parler à quelqu'un pour pouvoir rentrer dans son appel, dans sa destinée. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, vous donne une grâce spéciale pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a déposé dans votre vie, sur votre cœur. Et nous croyons que vous allez pouvoir aller plus loin pour le royaume de Dieu. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end dans la présence de notre Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.